dein Fegele, mach zu dein Egele, schlaf, mein Kind, schlaf. Schlaf, schein, mein Fegele, mach zu dein Egele, schlaf, mein Kind, schlaf. Schlaf, schein, mein Fegele, mach zu dein Egele, schlaf, mein Kind, schlaf.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le Collège Saint-Michel et le lycée Les Arcades se sont associés pour mener un projet autour de l'histoire juive et de la mémoire liée à la Shoah. Ainsi, sous la houlette de Mme Durand et de M. Sroda, professeur d'histoire-géographie, et avec ma participation active, M. Gillot, professeur documentaliste, nous avions le projet d'accueillir Mme Evelyne Askolovitch. Pour des raisons de santé, elle n'a pas pu honorer son rendez-vous. Nous lui souhaitons un bon rétablissement et nous continuons à faire vivre ce projet en vous présentant aujourd'hui ce souvenir ensemble. Alors, je tiens particulièrement à remercier de leur participation à ce projet Anaïg Pinault, Wilhelmina Mathieu, Thaïs Roche, Julia Meyer, Lorenzo Monnier, Amaury Delavigne, Léopold Desmarquais, sans oublier évidemment Thierry Guyon et Élie, nos précieux partenaires de Radio Shalom Bourgogne, et ma chère collègue Audrey Foubert.
Je pense qu'à un moment, la Shoah, l'Holocauste sera de l'histoire et qu'on ne se rappellera pas. Je n'en ai pas parlé pendant des lustres. Il n'y a pas si longtemps, je faisais comme si ça n'avait pas existé. Aujourd'hui, j'ai envie de raconter mon histoire, parce qu'après moi, il n'y aura plus personne qui l'a vécu. J'ai été quand même dans un camp de concentration, j'ai eu peur, j'ai failli mourir. Je n'avais rien fait. J'avais strictement rien fait. On m'a pris, on m'a volé ma toute petite enfance. J'étais juste un enfant juif, c'est tout.
J'ai toujours connu ma mère, mais elle a changé. Un jour, j'ai retrouvé ma mère en train de se passionner pour la petite fille qu'elle avait été, petite fille dont elle ne parlait jamais. Aux alentours de ses 75, 76 ans, jusqu'à aujourd'hui, elle s'est mise à se réapproprier son histoire.
L'extrait que vous avez entendu est tiré de l'émission En Société, enregistrée en juin 2024, avec l'aimable autorisation d'Evelyne Askolovitch. Les morceaux et lectures du livre Se souvenir ensemble de Claude et Evelyne Askolovitch ont été choisis par les élèves de 3e A et de 3e C du Collège Saint-Michel.
Se souvenir ensemble est un récit à quatre mains qui explore la mémoire familiale, la transmission et la complexité du lien mère-fils au cœur de l'histoire juive et de la Shoah. Evelyne, aujourd'hui âgée de 85 ans, a été déportée de Hollande au camp de Bergen-Belsen à l'âge de 4 ans. Pendant de longues années, elle a gardé le silence sur son enfance, se protégeant dans l'oubli et le déni, jusqu'à ce qu'un événement traumatique ravive ses souvenirs et la pousse à témoigner devant les enfants des écoles.
Son fils, Claude Askolovitch, journaliste parisien de 60 ans, a grandi avec une mère qu'il percevait comme drôle et normale, ne partageant pas sa tragédie. Il a longtemps vécu dans la tradition familiale, sans poser de questions, jusqu'à ce qu'il tente de s'approprier le passé de sa mère et cherche à comprendre ce qu'elle a traversé.
Le livre s'articule autour d'un dialogue tendre et parfois conflictuel entre la mère et le fils. Un jeu de ping-pong où chacun cherche à être entendu, compris et parfois pardonnant ou consolé. Evelyne raconte parfois avec douleur, parfois avec humour, des souvenirs qu'elle peine à reconstituer, tandis que Claude aussi, entre le désir de savoir et la peur de blesser sa mère en la faisant plonger dans son passé.
Leur relation est marquée par l'amour, le doute, la colère, la tendresse et la difficulté de transmettre une mémoire si lourde. Claude s'inquiète que sa mère, en devenant un témoin public, se blesse à force de chercher son enfance perdue, ou qu'elle oublie les vivants à force de s'obséder des morts.
Leur échange aborde aussi la place du judaïsme dans leur identité, la mémoire des Juifs d'Allemagne et de Hollande, la vie en France après la guerre, et la question de savoir comment vivre avec un passé qu'on ne peut ni oublier, ni vraiment transmettre.
Ce n'est pas si compliqué. Ma mère, Evelyne, est née le 15 juillet 1938 à Amsterdam de Jacob et Annie Sulzbach, juifs d'Allemagne immigrés aux Pays-Bas. Les Pays-Bas furent conquis par l'Allemagne nazie au printemps 1940. Evelyne, âgée de 4 ans, et ses parents furent arrêtés. Une dénonciation, le 12 mars 1943, est déportée dans les camps néerlandais de Fürth et Westerbork, puis à Bergen-Belsen, en Allemagne, d'où la Croix-Rouge les sortit. Ils possédaient des vrais faux papiers du Honduras, pays neutre, et donc ils ne moururent pas. Mais il s'en fallut de peu. Ils finirent la guerre dans un camp de la Croix-Rouge, à Bibrac, près du lac de Constance, d'où ils furent libérés par des soldats français. Le frère d'Yveline, Jules, est né en 1950. Le 2 septembre 1958, à la synagogue de la rue Jacob Obrecht, à Amsterdam, Obrecht fut un compositeur flamand de la Renaissance, renommé pour ses messes polyphoniques. Evelyne a épousé mon père, Roger Askolovitch, qui écrivait et méditait sous le nom de Roger Ascott et qu'elle avait rencontré en vacances en Italie.
Roger, avec ses parents Maurice et Suzanne, Sarah, et son petit frère Adolphe, qu'on préférait appeler Félix cela s'entend, avait traversé l'occupation allemande en France dans diverses caches dont j'ignore le détail, entre Perpignan, terre de rugby. Et par piété filiale, je cherche les lundis les résultats des 100 et or de l'USAP des midis olympiques. Et dans l'arrière-pays niçois, Roger, juif, on ne peut plus français, déracina ma mère, l'emmena à Paris. Je suis né le 18 décembre 1962 et ma sœur Myriam, Mimi, le 26 février 1967. Nous avons à nous deux 7 enfants, 2 petits-fils, moi, 2 veuvages, une nouvelle union, moi, une immigration en Israël, elle. Dans nos vies, la Shoah n'a pas joué de rôle majeur, sauf à y penser mieux. Mais veuve puis orpheline, dans cet ordre, Evelyne est devenue une parmi ces vieux juifs qui racontent aux enfants des écoles leur presque mort d'antan. Elle le fait avec une passion qui me trouble. Et parfois, elle s'épuise à force de récits. Ma mère est désormais un personnage patrimonial. Un archétype bouleversant que l'on conjugue au pluriel. On nomme Evelyne et ses semblables, les derniers témoins, dont on redoute que la disparition, inéluctable, nous séparera, irrémédiablement, de la Shoah. Je n'aime pas cette dialectique. Je dois être possessif et superstitieux. Ma mère n'appartient pas à l'histoire. Si elle devait partir, ce ne serait pas au nom de 6 millions que je serais triste. Nous dirons que je suis perplexe dans la transformation de maman en témoin. Je le montre aussi peu que possible.
Evelyne, d'apparence, va bien. Elle ne boude pas cette existence utile. Des enfants la remercient après ses conférences. Elle lutte contre l'oubli. Elle leur dit Si un jour des gens prétendent devant vous que ce n'est pas arrivé, vous pourrez dire que vous avez rencontré une vieille dame qui avait été déportée quand elle était petite. Je l'ai vu aussi transmettre l'expérience de sa survie à des prisonniers dans une maison d'arrêt. Et ces hommes, que l'on croirait durs, y ont trouvé un réconfort. Si cette petite femme était sortie de l'enfer nazi, ils surpasseraient leur enfermement. Des journalistes et des photographes rendent maman immortelle. On a affiché son portrait sur les murs qui entourent l'UNESCO à Paris, puis sur les grilles du jardin du Luxembourg, au milieu d'une ribambelle de rescapés, photographiée par un photographe germano-italien, fils d'immigrés siciliens, Luigi Toscano, qui saisit des visages pour empêcher l'oubli. Au milieu de gueules ravinées, Evelyne a une bouille fraîche encore. Cela me réjouit. On me dit qu'elle est formidable. J'acquiesce, mais ce n'est pas si simple. Je redoute que ma mère souffre. Ses témoignages l'éprouvent. Ils la confondent à ces monstres. Ce n'est pas, comme on pourrait le croire, qu'elle revit l'horreur en la racontant, mais plutôt que de conférence en conférence, elle se heurte à un mur opaque qui la sépare de son passé. Evelyne témoigne sans souvenir. Fillette dans les camps, elle avait éteint quelque chose en elle pour ne pas mourir de peur et de chagrin, et après guerre, elle s'est reconstruite sur cette absence. Cette perte est irrémédiable. Elle tisse sa parole de quelques scènes qui se sont faufilées en elle. Elle se cherche quand on croit qu'elle transmet. Mais cette recherche est aussi une transmission. Tout ceci est sublime, ou poignant, ou insensé.
Je ne porte jamais de sac à dos. Je n'en ai jamais eu. Cela vient de ma maman. Elle avait un sac à dos quand on nous a déportés. Après la guerre, elle n'en a plus jamais voulu.
Mais quand tu partais camper avec ton mouvement de jeunesse, tu faisais comment ?
J'avais une valise. Et puis, on ne campait pas si souvent. Nous étions partis un été. Le vent avait arraché notre tente. Nous nous étions retrouvés en pyjama dehors dans la nuit. Une autre fois, un hiver, on nous avait logés dans une grange. Nous dormions sur la paille. C'était génial. Nous ne nous sommes pas lavés de tout le séjour. Quand je suis rentrée, mamie a ouvert ma valise. Elle a pris tout ce qu'il y avait dedans pour le laver. Un ami de mes parents était passé nous voir. Sa fille campait avec nous. En rentrant, il avait dit à papy et mamie « C'est bien la peine qu'Evelyne survive à Bergen-Belsen pour la faire dormir sur de la paille et que ça la rende heureuse. »
Mamie est née le 30 juillet 1914 à Speyer, en Rhénanie, dans une famille de juifs allemands libéraux. Sa grande sœur, Else, très belle et de 7 ans son aînée, lui disait que sa naissance avait causé la guerre. C'était de sa faute si leur papa était parti soldat. Il s'appelait Julius Seligman. Il revint en 1918 avec la croix de fer en argent, la Ritterkreuz. Il avait été interprète sur le front russe, puis en France. Mamie eut du mal à s'habituer à son père. Elle ne le connaissait pas. Hitler prit le pouvoir après son baccalauréat. Mamie n'eût pu pas étudier le droit comme elle avait rêvé. Elle ne serait jamais juge pour enfants. Isaac et Jenny, mes grands-parents, eurent 6 enfants. Mon père, Jacob, était le 3e. L'aîné s'appelait Lot, Lottie. On a toujours donné ce prénom dans ma famille. Charlotte est mon 2e prénom. Lottie a fui l'Allemagne avec son mari et ses enfants en 1935 et s'est rendue en Palestine. Deux autres frères et une sœur de mon père ont émigré aux États-Unis. Une autre sœur, Caroline, est morte à Auschwitz le 30 septembre 1942. On disait dans la famille qu'elle était un peu simple. Elle n'a jamais quitté ses parents, qui avaient rejoint mon père à Amsterdam à la veille de la guerre. Caroline avait été arrêtée le 15 juillet 1942, le jour de mes 4 ans. Je ne crois pas qu'il existe une seule photo d'elle vivante. Isaac, mon grand-père, est mort à l'hôpital du camp hollandais de Westerbork, le 14 juin 1943, il eut la chance de mourir dans un lit. Ma grand-mère, Jenny, fut déportée à Sobibor un mois plus tard. Elle n'avait pas de faux papiers pour la protéger. Ayant vu le nom de sa mère sur les listes de transport de la veille du départ, mon père avait vainement supplié l'administration du camp qu'elle soit épargnée. Le 20 juillet 1943, papy dut accompagner ma grand-mère à la gare de Westerbork. Au moment des adieux, elle pleurait et disait que, peut-être,
elle reverrait sa fille, Caroline, là-bas. Papy essaya une dernière fois de la faire libérer. Le soldat qui fermait les portes des wagons à bestiaux lui dit que, bien évidemment, il pouvait prendre la place de sa mère, et qu'il pouvait même amener sa famille avec lui. Y avait-il pensé ? Mamie lui avait dit qu'il ne pouvait pas nous laisser. Elle écrit dans ses mémoires qu'elle n'oublia jamais le regard de son mari quand sa mère partit. « J'ai toujours pensé que le cœur de mon père s'était brisé ce jour-là, à tout jamais, toute confiance en l'humanité détruite, et que, jusqu'à la fin de sa vie, le 7 janvier 1982, il a cherché sa mère dans ses cauchemars et ne s'est jamais pardonné de l'avoir abandonnée. »
Evelyne a entrepris de haïr la Hollande, puisque la Hollande la nie. Elle s'écrit aussi cela. Ma Hollande n'était qu'un mirage, un faux, un mensonge. La Hollande est le pays où 75% de sa population juive a été assassinée, parce qu'elle a collaboré avec férocité avec l'occupant nazi. La Hollande a fait que mon papa, papy, n'a jamais été joyeux. La Hollande m'a privé de grands-parents paternels, de maisons de grands-parents où passer des vacances. Et c'est pour ça que j'en ai fait une pour mes petits-enfants. Je trouve ces mots injustes et disproportionnés, et cruels pour elle-même d'abord, qui dévastent ces paysages d'avant. Je lui dis, c'est Evelyne qui m'a appris qu'en février 1941, Amsterdam s'était mise en grève pour protester contre les rafles de juifs. Même le grand magasin de Pijankorf, sur la place du Dam, avait suivi le mouvement lancé par des conducteurs de tramway. Les meneurs de la grève l'avaient payé de leur vie. Mais ce souvenir n'apaise pas la colère de ma mère. Elle en a besoin.
Tu sais comment on a appelé le retour des Juifs en Hollande ?
Dis-moi.
La petite Shoah.
On ne peut pas dire ça, maman.
Pourquoi ?
Parce que ça n'a rien à voir.
Tu sais ce qui est arrivé à Opa quand nous sommes revenus ?
Dis-moi.
Notre ancien appartement était occupé par de nouveaux locataires. Opa est allé au bureau des logements pour voir s'il pouvait récupérer l'appartement où ses parents avaient vécu. On lui a demandé s'il avait leur certificat de décès. Quand Opa a répondu que sa mère avait été gazée dans un camp de concentration, on lui a dit qu'il n'avait pas de preuves et, si ça se trouvait, elle vivait toujours.
Oui, c'est terrible. Mais ce ne sont pas seulement les Hollandais qui ont été cruels envers vous. La famille de Opa, aux États-Unis, ne vous a pas aidé. Ils ne vous ont pas invité à venir en Amérique. Et pourtant, Opa leur avait écrit.
Ils ne voulaient pas s'embêter avec nous.
Personne ne voulait s'embêter avec les survivants. Tu sais, en France, il y avait une association des locataires de bonne foi, des gens qui refusaient de rendre les appartements des Juifs déportés qu'ils avaient récupérés. C'était horrible, mais ce n'est pas la Shoah. Ce n'est même pas ce qui s'est passé en Pologne. Tu sais qu'il y a eu des pogroms en Pologne, après la guerre, quand les Juifs rentraient chez eux. Tu sais, moi je sais.
Je lis des bouts de livres et traîne sur le web. Lors de la grève des 25 et 26 février 1941, 180 000 personnes manifestèrent pour les Juifs à Amsterdam. 250 résistants hollandais furent tués par les nazis et, en souvenir, la ville d'Amsterdam fut honorée juste parmi les nations par le mémorial de la Shoah de Jérusalem, le Yad Vashem, comme le Chambon sur Lignon en France, où les fidèles du pasteur Trocmé aimèrent et protégèrent les Juifs. Je sais, je ne sais rien. Ce n'est pas mon père qu'un SS a battu à coups de barre de fer, et je ne l'ai pas vu tomber dans la neige, ni revenir en pleurant de chez un bureaucrate, 2 ans après avoir aidé sa propre mère à monter dans le train pour Sobibor. Je n'ai pas été humiliée en revenant de l'enfer, et je n'ai pas eu à désapprendre ce que je croyais comprendre de mon pays natal. Maman, elle, vit avec la douleur des désillusions.
Evelyne était à l'école, cette école précisément, le 12 mars 1943, quand sa maman vint la chercher avec les 2 policiers, un Allemand et un Hollandais, qui avaient sonné à la porte de l'appartement des Schulzbach et avaient juste posé une question. Juifs ? Poser une affirmation plutôt. Des Juifs ! Car ils connaissaient la réponse, les voisins de mes grands-parents les ayant dénoncés. Annie était seule à la maison. Après avoir récupéré Evelyne, les policiers attendirent que Jacob revienne. Il était parti faire les courses pour ses parents. Puis, on emmena vers le chaos, le père, la mère et la fillette, leurs sacs à dos et leurs petites valises. « Quelques vêtements pour 2-3 jours », leur avaient dit les policiers. Mais les vêtements allaient durer plus de 2 ans. Maman dit qu'elle a appris récemment que les policiers hollandais touchaient 5 florins, un pour chaque juif arrêté. Evelyne a mené un beau combat pour ne pas nous envahir avec son passé. Je le dis sans ironie, même si ce combat finalement se révèle vain. Souvent, j'en fus agacé. J'accepte désormais. Je progresse. Mais qu'elle fasse silence avec nous, tout en racontant sa vie à des enfants qui n'étaient pas les miens, me paraissait incongru. Pauvre bébé que tu prives de ta Shoah. En réalité, chacun de mes gosses s'est débrouillé seul pour savoir ce qui le concernait. Il suffit d'oreilles qui traînent sur les conversations d'adultes, et les angoisses poussent sur un terreau fertile. Un jour, expliquant à des amis ce livre qui ne veut pas sortir, j'ai entendu Octave et Léon, un cœur enfantin, m'interrompre et résumer le parcours de Baba, son surnom de grand-mère, inventé par Camille, mon aînée, dans ses premiers babillages, donner le contenant des camps qu'elle avait traversés et raconter le passeport qu'il avait sauvé, et expliquer enfin qu'elle était triste, Baba, de ne pas se souvenir de tout. Découvrirai-je demain qu'Octave et Léon ont peur aussi bien ? La transmission sera acquise. Leurs psys devront démêler les parts juives et bretonnes de leur fêlure, ce qu'ils tiennent de leur maman Nolwenn, qui, enfant en s'endormant, redoutait de se réveiller privée d'intelligence, et ce que ma folie leur a fait. Il y a quelque 25 ans, Valérie et moi avions été horrifiés et fiers en même temps. Fiers, oui, quand Camille avait serré son petit frère Théo contre elle, lui promettant que l'horrible papa ne viendrait pas les prendre, on allait le juger.
Il y a 2 ou 3 ans, une amie, programmatrice d'une émission de télé, une bonne émission, vraiment, exemple de facilité, m'avait demandé de contacter Evelyne pour l'inviter sur son plateau.
Vous allez parler des camps, j'imagine ?
On va se demander comment on pourra transmettre la mémoire de la Shoah quand les derniers déportés seront morts.
Donc tu veux inviter ma mère à discuter de sa mort ?
Je n'avais pas transmis l'invitation. Maman me l'a reproché, elle avait très envie de parler. Donc, j'avais tort. Mais je n'en démords pas. Le souvenir est une violence, et l'oubli fait partie de nous. Nous en avons oublié, des massacres, des enfants brûlés, des villages rasés, des cultures effacées. Et il y en a eu tant, des familles tremblantes se regroupant près d'un bois de bouleau ou un rocher au désert, le temps d'un répit. Et un gosse sourit à sa mère sans savoir que dans une heure, tout sera fini. Par l'épée, par le gaz, par les balles ou les flammes. Nous oublierons sans doute. Et même la Shoah, cela a commencé. S'efface doucement Majdanek, Belzec, Sobibor. Je parle de noms moins connus qu'Auschwitz ou Treblinka. Le temps a déjà fait son œuvre. Ce sera plus long pour la Shoah que pour d'autres inhumanités. Et ce sera freiné par les livres, les historiens. Et oui, sans doute, par tant de témoignages que nous avons archivés. Mais à la fin, qui ferons-nous ?
Je ne crois pas en l'unicité de la Shoah. Au sens où elle échapperait à l'histoire commune, mais je sais sa démesure. Cette éradication à l'échelle d'un continent de millions de personnes qui ne se vivaient pas toutes comme un peuple, mais comme des citoyens.
Plus ou moins heureux, plus ou moins riches, plus ou moins miséreux, plus ou moins révoltés.
De leurs pays respectifs qui parfois priaient Dieu et parfois l'ignoraient, qui n'avaient en commun que la haine qu'ils inspiraient et qui furent inventés comme peuple.
Comme peuple mauvais, comme peuple parasite, comme peuple nuisible et de trop sur la terre.
Inventés par leurs bourreaux, que pourtant ils ne menaçaient pas, bourreaux qui cauchemardèrent un juif qui n'existait pas, avant de le tuer.
Avoir été l'objet d'un fantasme de mort ne peut mener nos vies.
Loni, l'amie de ma mère, a le droit d'enfuir en elle la fillette cachée qu'elle fut. Evelyne a tout autant le droit de se chercher encore. Mais l'une comme l'autre sont libres de leur choix. Ou alors, à quoi bon avoir vécu ? J'ai mis du temps à admettre la liberté de ma mère. Je n'y suis pas encore tout à fait. Disons que j'y travaille. J'avance vers elle. Je ne pense pas que ces témoignages changeront l'histoire, ni même retarderont l'oubli. Mais ils la soutiennent et la sauvent, même quand elle en souffre. Témoigner la répare.
Témoigner la répare.
Elle se pardonne, témoignant d'avoir vécu. À force de l'admettre, sans doute, moi-même, vais-je moins mal.
Je crois en l'unicité de ma mère, sinon de la Shoah. Et je n'écris pas sur les camps, ou juste pour être certain que nous en sommes sortis. La survie d'Evelyne, d'Annie et de Jacob Sulzbach aura dépendu d'un enchaînement qui fait croire au destin. Voilà ce monsieur Brunswick, que son nom soit béni, qui, faute d'avoir emmené Evelyne en Suisse, obtient pour elle et sa famille des papiers du Honduras. Et ses passeports, qu'ils envoient aux Landes occupées, parviennent au camp de Fürth, dont le commandant convoque Annie pour lui remettre son courrier. Paradoxe de l'efficacité allemande. Jacob est alors en train de saboter des ponts sur le Rhin vêtu d'un pyjama rayé. Ceci, en mai 1943, quelques jours avant que les enfants soient évacués du camp pour partir à la mort.
Voilà Annie, qui n'écoute pas un étrange personnage. Bien habillée, dit-elle dans ses mémoires. Un responsable du conseil juif, Junderat en allemand. Un de ses collabos auxquels les nazis avaient confié le soin d'organiser la mort de leurs voisins et qui finalement furent tués aussi bien. Ce collabo, à la gare de Fürth, au moment où Annie monte dans le train, le fameux convoi des enfants, qui doit l'emmener avec Evelyne et 3000 autres juifs vers le camp de transit de Westerbork, dernière étape avant la mort, lui dit de ne surtout pas montrer, à l'arrivée, son passeport de pays neutre, si jamais elle en possède un. Mais Annie, au contraire, montre ses papiers à Westerbork, à un autre personnage, membre de l'administration juive du camp, Herbert Kruskal, que son nom soit également béni, qui se présente à elle comme un ami de son mari Jacob. Et Herbert cache la femme et la fille de Jacob dans une pièce. Ne bougez pas.
Le temps que le train reparte, sans Evelyne ni Annie, qui à Westerbork se reposeront.
Jacob les rejoindra à Westerbork à temps pour aider sa mère à monter dans le train de Sobibor, avant d'être transféré avec sa femme et sa fille vers Bergen-Belsen, où, si l'on meurt, ce n'est que lentement, de coups, de faim, ou de maladie. Il n'y a pas de chambre à gaz dans ce camp allemand, et les plus faibles ne sont pas triés. C'est au papier du Honduras que les Sulzbach doivent Bergen-Belsen, que les nazis ont conçu comme un camp d'échange, une réserve d'otages. On y porte ses propres vêtements, pas les pyjamas rayés. Ce sont ces mêmes papiers qui les signalent à la Croix-Rouge, qui les évacuent vers le sud de l'Allemagne, près du lac de Constance, dans un camp où elle prend déjà soin de familles anglaises déportées des îles anglo-normandes conquises en 1940.
Jersey et Guernsey.
Les îles de la légende.
De notre Victor Hugo.